Donc, nous commençons le temps de l'Avent et c'est ça qui nous réunit là. Vous savez, c'est un temps qui a toujours été attendu et toujours célébré, si j'ose dire, avec beaucoup de recueillement dans tous les pays que je connais, la France, surtout l'Est de la France et l'Allemagne. En Allemagne, c'est un temps très fervent, le temps de l'Avent. On a un calendrier spécial pour l'Avent. On ouvre une petite fenêtre tous les jours dans le calendrier, pour les enfants. Mais je crois que c'est important de noter ce genre de petites choses folkloriques, parce que ça prouve que ce temps, il est entré dans la culture profonde des peuples occidentaux.
Ils avaient la couronne de l'Avent.
Et la couronne de l'Avent. Avec les... Oui, nous on le fait à Boisaubry. Tous les dimanches, on allume un cierge de plus.
Ah bon, en fait, hein.
Oui, on le fait. On a sur la grande table du réfectoire, on a 6, bien sûr, parce qu'ils n'ont que 4. Moi, je vais en parler maintenant. Mais c'est vite fait d'en rajouter 2. Donc, adventum, en latin, ça vient du verbe advenire, qu'on pourrait traduire par venir, advenir. Adventum, ça voudrait dire arriver. Ça voudrait dire avènement. Ça pourrait même vouloir dire avenir. Tout ça, ça a un rapport sémantique et ça a une idée, l'idée de la venue. Une idée d'un écoulement dans le temps. Et je pense que l'écoulement du temps, le sens du temps, c'est une des choses qui est... Les Occidentaux sont très sensibles, n'est-ce pas, à cette idée du temps qui s'écoule, de l'histoire, le sens de l'histoire. D'ailleurs, Maxime Povelev, qui commençait son cours de liturgie en disant « On ne peut pas comprendre la liturgie en dehors d'une conception historique. » C'est l'histoire qui fait comprendre la liturgie. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ça va être le cas. Donc cet avenir, cet écoulement du temps, ce temps de l'avenir, cette contemplation de l'avenir est double. On se remémore l'histoire depuis les origines jusqu'au Christ de façon à pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire avoir une idée de ce qui se passera lors du retour du deuxième avènement. Je sais pas, il y a 2 avènements. Il y a eu l'avènement historique et ça va nous permettre de contempler, de nous projeter dans l'avenir. Donc ce mot avant, correspond en grec, dans le Nouveau Testament, au mot parousie, le mot grec parousie, qui est utilisé par saint Paul justement pour signifier le retour du Christ. Hier soir, vous avez entendu saint Jacques aussi en parler. Et il emploie le même mot. Dans le Nouveau Testament, en grec, on emploie toujours le mot parousie quand il s'agit de l'avènement du Christ, du retour. Actuellement, l'Avent désigne un temps bien particulier et bien fixé. Alors, c'est pour ça qu'il faut historiquement le circonscrire, si j'ose dire, l'expliquer historiquement. Actuellement, il désigne en Occident les 4 semaines qui précèdent la nativité, la fête de Noël. Pour ce qui nous concerne, nous les orthodoxes gaulois, c'est pas 4 semaines, mais 6. Pourquoi ? Parce que quand on remonte dans le temps, quand on fait des recherches, on se rend compte que l'Église des Gaules a toujours célébré 6 semaines, et ces 6 semaines commençaient le lendemain de la fête de Saint-Martin. C'est le Concile de Tours, en 567, qui est le témoignage le plus ancien de cette façon d'agir. Le Concile de Tours de 567 dit « De la fête de Saint-Martin à la vigile de la Nativité, on jeûnera 3 jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. » C'est ce que, à la suite de ce concile, les pères ont appelé le jeûne de la Saint-Martin. Donc, la Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Du 11 novembre au 24 décembre, il y a 44 jours. 44 jours. 40 plus 4. C'est intéressant, cette idée. 6 semaines. Ce concile de Tours a été confirmé en 581 par le concile de Mâcon. Vous voyez, ce n'est pas une chose ponctuelle. Et les sacramentaires gallicans nous indiquent effectivement 6 dimanches entre la Saint-Martin et Noël. Hier on en a parlé, je vais revenir, je fais un petit excursus. Hier on m'a parlé, on m'a demandé des précisions sur le jeûne de l'Avent. Alors je reviens sur ce que j'ai dit l'année dernière, je crois j'avais fait une ordonnance épiscopale à ce sujet. Le jeûne de l'Avent, c'est un jeûne simple, c'est-à-dire que les jours de jeûne, ça consiste à retarder le repas après none. C'est le jeûne monastique classique. Chez les moines, quand on dit on jeûne, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul repas dans la journée, après none. Et ce repas, c'est un repas léger. Ce n'est pas un festin, bien entendu. Donc, pendant 3 jours par semaine, on fait ce jeûne, le lundi, le mercredi, le vendredi. On peut l'adapter selon les circonstances, puisque ici, le vendredi soir, c'est Shabbat. Donc, pour ne pas faire le jeûne le jour de Shabbat, qui serait dommage, eh bien, on peut faire la veille. Ça revient au même. Alors, tout porte à croire que, d'après ce que je viens de vous dire, vous pourriez croire que, en fait, c'est les Gaulois qui... les chrétiens gaulois qui ont inventé le temps de l'Avent, ce temps de préparation à la fête de la Nativité du Christ. Non. On s'est rendu compte que, d'abord, c'est plus ancien que le Concile de Tours. Ce Concile de Tours, c'est le témoin, un témoin écrit. Bon. Mais le temps existait bien avant, et on remonte maintenant jusqu'à la fin du IVe siècle, puisqu'on a retrouvé des textes à Ravenne, le fameux Rotulus de Ravenne, qui date de 390-380, dans lesquels il semble il y a des collectes qui effectivement font allusion à un temps de pénitence, enfin un temps de recueillement et de réflexion qui précède la fête de Noël. Donc ça remonte au moins jusqu'à la fin du IVe siècle. Et c'est en Occident, dans tout l'Occident, c'est-à-dire en Italie, en Espagne et en Gaule. Mais les Gaulois l'ont fêté particulièrement. Or, Il faut remarquer une chose intéressante, c'est que cette fête de la Saint-Martin, qui est le point de départ de l'Avent, c'est à quelques jours près, ça coïncide avec l'ancienne fête celte qu'on appelait la fête de Samhain, qu'on a transformée maintenant en fête d'Halloween, qui est une fête païenne, mais bon, c'était une fête cosmique chez les Celtes, et elle marquait le début de l'année. En quelque sorte, les chrétiens ont voulu continuer cette idée que l'année commence à ce moment-là. L'année cosmique commence avec cette préparation de la fête de Noël. Et notre calendrier liturgique suit effectivement depuis cet usage, puisque le calendrier liturgique commence au premier dimanche de l'Avent, au premier jour de l'Avent, le 12 novembre. Alors, quel est, dans les textes que nous avons et qui nous ont été transmis par la tradition, quelle est l'idée générale de ce temps? Je dirais quels sont les grands piliers après, mais pour l'instant, l'idée générale est l'idée suivante. Vous savez, on dit en sciences biologiques que l'embryogenèse reproduit la phylogénèse. Je vais m'expliquer, c'est des mots très compliqués. On dit que l'embryon humain, pendant sa gestation, il revit toute l'évolution de l'espèce. Il passe par... il est d'abord un batracien, puis ensuite un poisson, puis ensuite son cerveau se développe, etc., etc. Il devient un mammifère. Bon, vous voyez, on passe toute on dit l'embryogenèse reproduit la phylogénèse. Eh bien, en quelque sorte, c'est un peu ce que l'Église nous propose pendant le temps de l'Avent. Nous allons revivre l'histoire de l'humanité, l'histoire religieuse, l'histoire spirituelle de l'humanité, telle que nous la raconte la Sainte Écriture. Nous allons revivre l'attente d'Israël avec le prophète Isaïe, l'attente, l'annonce, l'espérance qui aboutit, cette espérance des prophètes, quand je dis les prophètes, ça veut dire ce qu'il y a de meilleur dans le peuple hébreu, n'est-ce pas ? Les prophètes, c'est l'élixir du peuple hébreu, en quelque sorte, la quintessence. Bon. Et cette espérance aboutit à un homme, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il représente à lui tout seul, il n'était certainement pas seul dans son cas, mais bon, c'est sur lui que ça s'est cristallisé en quelque sorte. Il représente ce désir ardent, j'ai employé le mot désir spécialement, c'est pas un hasard. Il représente cette espérance qui s'est tellement réchauffé, c'est comme un feu qui s'est concentré et c'est devenu ce désir ardent de Dieu. Et il y avait là, à l'époque de Jean-Baptiste, certainement d'autres hommes comme lui qui avaient ce désir brûlant intérieur de Dieu. Et ce désir brûlant, en quelque sorte, il va ouvrir les portes, il va faire apparaître le Verbe dans la Vierge, c'est-à-dire, autrement dit, ils vont provoquer, en quelque sorte, entre guillemets, l'incarnation du Verbe. Et c'est ce que l'Église nous propose pendant ces 44 jours. revivons en 44 jours ce que l'humanité a vécu pendant, je ne sais pas, comme, quelle année c'est cette année, 5700, bon, vous savez, c'est le calendrier juif, bon, c'est un chiffre, bon, c'est un nombre, bon, mais certainement plus ancien encore. Disons que depuis Abraham, c'est-à-dire au moment où la promesse a été faite, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusque au jour de Jean-Baptiste et de Marie. Et puis, alors on va se projeter en avant, on va passer de l'autre côté, et maintenant nous allons vivre l'attente du retour. De la même manière, n'est-ce pas ? Nous sommes en quelque sorte sur la deuxième partie du chemin, dans le même état que le prophète Isaïe. Nous attendons le retour du Christ. Sans doute, il y aura des Jean-Baptiste qui annonceront ardemment le retour, et ce retour arrivera. Mais nous ne connaissons ni l'heure, ni le moment, ni le jour, ni l'heure, dit le Fils. Bien. Donc voilà, j'ai prononcé les trois noms qui vont nous accompagner, ces trois personnes qui vont nous accompagner pendant ces 44 jours. Isaïe, qui représente tous les autres prophètes. Jean-Baptiste, qui représente tous les justes, tous les spirituels, tous les hommes de désir, et la Vierge Marie, qui, elle, représente l'humanité tout entière, et vont nous accompagner. Alors, Isaïe, on va parler un peu des trois personnes. Hier soir, on les a entendus, et comment ? Hier soir, nous avons entendu la vocation d'Isaïe. Et rien que ce texte, même s'il n'avait rien écrit d'autre, rien que ce texte, ça nous mettrait déjà, j'allais dire l'eau à la bouche, on a envie de connaître cet homme. Isaïe, il s'appelait de son vrai nom Yeshayahu ben Amoz, fils de Amoz. Amoz. Oui, il ne faut pas confondre Amoz avec un T et un Z. Avec Amos, le prophète Amos, qui s'écrit avec un S. Il y a trois S dans l'alphabet hébraïque. Il y en a un qu'on prononce tsadé, qu'on prononce x ou ts ou ts. Bon, alors celui-là, Amos. Alors, qui était Yeshayahu, fils d'Amoz.
C'est pas Yeshua, c'est pas.
Hein? Yeshayahu.
Et Yeshua, c'est pas pareil.
Bah, c'est-à-dire que c'est la même racine, c'est la même racine, mais c'est pas le même nom. Hein, c'est Isaïe, mais c'est très proche, puisque Yeshayahu, ça veut dire Yahou sauvera. Le Seigneur sauvera. C'est pas loin.
Tu l'écris comment, Seigneur ?
Yeshayahu, ben, comme vous voulez, parce que de toute façon, c'est pas du français, c'est de l'hébreu, alors. Alors, vous savez, il a plusieurs noms, parce que nous, on dit Isaïe, les protestants disent Esaïe.
Oui.
Mais il s'appelle Yeshayahu ben Amoz. Un habit. Le prophète.
Ben, c'est le fils, oui.
Parce qu'il y a des Isaïe, il y en a beaucoup. C'est un prénom, si j'ose dire, un prénom courant. Le père du roi David s'appelle Isaïe. Jessé, on l'appelle Jessé en français. De façon à ne pas confondre, mais c'est Isaïe, en fait. Il s'appelle aussi Yeshayahu.
Comme des
Yeshua,
il y en avait beaucoup.
Des Yeshua, il y en avait. Josué, c'est un Yeshua. C'est Jésus, Josué, ce sont des doublés. Hein. En français, on a mis des noms différents de façon à ne pas confondre les personnes. Mais c'était un prénom. Bon. Comme des gens, Yohanan, Il y en avait autant qu'on en voulait. Déjà dans le Nouveau Testament, il y en avait au moins deux ou trois. Donc Isaïe, fils d'Amos, il est né à Jérusalem. C'est un homme de Jérusalem. C'est un bon judéen, de Juda. Il est né en 765 avant Jésus-Christ. Vous voyez, je dis la date, c'est important parce que, imaginez cet homme, 765 ans, ou 700 ans, parce qu'il a commencé à prêcher, enfin il a commencé à être prophète à l'âge de 25 ans, l'année de la mort du roi Ozias. Vous avez entendu hier soir, c'est très très bien, parce que à cause on sait exactement à quel moment ça s'est passé. Bon. L'année de la mort du roi Ozias. Il a 25 ans, ça se passe en 740. Bon, 740 ans avant le Christ, il a une vision. Il reçoit de Dieu une mission. Et il a la vision de Dieu lui-même. Et il a surtout, il comprend l'incarnation. Il la comprend d'une manière particulière. Il ne va pas vous dire Dieu va s'incarner, etc. Il nous dit des poèmes. Il nous dit les plus beaux poèmes de la langue hébraïque parce que c'est le prince des poètes. Et c'est le prince des prophètes. C'est vraiment le cœur de la littérature biblique. Quand on lit Isaïe, et surtout quand on lit en hébreu, c'est Victor Hugo, c'est Lamartine, c'est tout ce qu'on veut, c'est absolument fantastique comme texte, n'est-ce pas? Avec, en plus, non seulement c'est beau, formellement beau, son texte, mais en même temps, une vision du monde, une vision de l'histoire, une vision de la vie intérieure qui est, j'allais dire, grandiose.
Monseigneur, mais il annonce déjà l'Apocalypse. Oh, quand on le lit...
Oui, oui, moi, tout.
L'Apocalypse.
Il faudrait faire une session spéciale pour lui, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a de quoi parler pendant des heures.
On a fait un week-end.
Ah oui, oui. Isaïe, c'est tout à fait étonnant. Donc, c'est à juste titre, donc, c'est tout ça pour justifier le fait que c'est son livre que nous allons lire essentiellement pendant les liturgies et les offices de l'Avent. On commence d'ailleurs le livre le premier jour de l'Avent. Le premier jour, le 12 novembre, on commence à lire, on ouvre le livre à la première page. Et on le tient jusqu'à la fin. 66 chapitres. Alors, il y a quelques problèmes avec lui. Il y a quelques problèmes avec le prophète Isaïe. C'est que, en fait, si on regarde bien son livre, on se rend compte qu'il aurait vécu 255 ans. C'est un peu possible. C'est bien qu'il soit certainement devenu très vieux, sûrement, mais... 255 ans, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que cet homme extraordinaire n'était pas seul. Il a eu des disciples. Et qu'Isaïe, c'est pas seulement un prophète, c'est une école de prophètes. Il y a autour de lui ce qu'on appelle les fils des prophètes. Vous savez, on lit ça de temps en temps dans le livre des rois, les fils des prophètes. Les fils des prophètes, ce ne sont pas les enfants que le prophète a eus avec sa femme, c'est les disciples prophètes. C'est une école. Isaïe, c'est non seulement Isaïe, fils d'Amos, mais c'est aussi d'autres personnes qui ont continué son œuvre après sa mort. Donc, il y a ce qu'on appelle le deuxième Isaïe et peut-être même le troisième Isaïe. Mais tous, il y a une grande unité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas trop la différence. L'impulsion donnée par le maître, n'est-ce pas, a continué après sa mort. Et son livre ces 66 chapitres du livre d'Isaïe ont une grande unité entre eux. Alors sa mission particulière, c'est rappeler à Israël la promesse de Dieu, et que Dieu ne faiblit pas et ne se repent pas de cette promesse, donc il faut espérer. Espérance, espérance, espérance. Espérance malgré l'époque troublée à laquelle il vit. C'est d'autant plus intéressant qu'il vit une époque où il y a de grands bouleversements politiques, il y a des catastrophes à répétition, etc. Et lui, il continue imperturbable, n'est-ce pas, à annoncer le salut de Dieu. Jusqu'à la phrase, j'allais dire, le central de son message. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, on l'appellera Dieu avec nous. Et ce message, il l'annonce au moment le plus terrible, n'est-ce pas ? La ville de Jérusalem est assiégée, le roi vient complètement affolé par les armées assyriennes qui l'entourent à sacrifier son fils à Moloch, c'est horrible, pour essayer de se rendre favorable quelques dieux qu'on aurait oubliés, n'est-ce pas ? On ne sait jamais. Enfin bon, c'est une période noire de l'histoire d'Israël. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Isaïe fait cette annonce. Il faut remarquer aussi qu'il apparaît au milieu des temps, Isaïe. Si on fait le compte, il y a 750 ans entre Moïse et Isaïe, et 750 ans entre Isaïe et Jésus. Il est juste au milieu. Je vais encore dire une chose à son sujet, c'est que dans l'élaboration du concept de foi, la foi, je pense que les textes d'Isaïe sont importants parce que c'est à partir d'Isaïe qu'on comprend que la foi, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est la confiance. Espérance et confiance sont des composante de la foi. C'est dans ce texte-là, c'est dans ce livre-là qu'on commence à comprendre. Confiance, obéissance. La foi, c'est une obéissance confiante ou une espérance obéissante. Vous voyez un peu le mélange. Ça vous explique pourquoi, de tous les prophètes, c'est le seul qui a eu le droit à un ton liturgique spécial, un ton musical particulier. Les autres, non. Ben, lui, oui. Mais parce que il a quand même une place particulière, une place étonnante et importante. C'est pas Jérémie, c'est important. Jérémie aussi, on peut dire les Lamentations, c'est un ton particulier. Mais ils n'ont pas la même place que Isaïe, qui est vraiment. Pour un chrétien, il annonce les grands poètes chrétiens. Il annonce la joie enthousiaste.
C'est. Certains chapitres sont extraordinaires.
Ah oui.
Des cris de joie.
Ah oui. Des cris de joie. Oui, oui, oui.
Soyez enthousiastes. Oui.
Et c'est très dommage qu'on ne traduise pas, on n'arrive pas à traduire toute la saveur qu'il y a dans le texte original, même en français, même quand on se force un peu. Hier soir, j'écoutais la lecture de la vocation d'Isaïe. C'était beau là, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Mais dans le texte, il dit les montants des portes en étaient ébranlés. Mais on sent que c'était terrible, parce que les anges, les deux chérubins, crient « Saint, 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 Kodesh, Kodesh, Kodesh ». Alors, ils crient, et ces hurlements, dit le texte, à cause de... Ils hurlaient, ils crient pas, ils hurlaient, n'est-ce pas? Bon. Alors, on n'arrive pas à s'imaginer, mais il faut... Puis alors, la fumée, tout d'un coup, là. Et alors, plus ils crient, et plus il y a de la fumée. Oh, ça devait être quelque chose de terrible.
C'est... Dans la liturgie, on le retrouve, ce saint, saint,
ah, oui,
saint.
Oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu édulcoré, toi, les montants des portes. Et comment c'était dans le texte, les montants des portes tremblaient, bon. Mais là, c'était vraiment ébranlé. Ébranlé, c'est-à-dire que ça va nous tomber sur la tête, tu vois. C'est dangereux. Et pourtant, bon, il y a une force. Et en même temps, une tranquillité. Voilà, après tout ce spectacle terrible, il entend la voix de Dieu lui-même qui dit « Qui enverrons-nous ? » Ça devait être terrible. Et il dit « Me voici, envoie-moi » Et il n'a pas du tout, ça l'a effrayé sans doute, mais ça ne l'a pas découragé. Hein. Bon, alors j'arrive à Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste... On a avancé dans le temps, on a avancé dans la phylogénèse, dans l'histoire, et il ne s'est toujours rien passé, n'est-ce pas? Voilà, 750 ans ont passé depuis Isaïe, et il ne s'est toujours rien. Et on attend toujours la promesse. Et il y a, dans un autre prophète, je crois que c'est le prophète Malachi, une phrase qui m'a toujours semblé étonnante et qui passe inaperçue. « Et alors viendra dans son temple le Seigneur que vous attendez. » C'est dans Malachi, je crois. Et il y a sans doute eu des générations d'Hébreux qui ont lu ce texte et qui ont essayé de se dire « Oui, oui, lui, il viendra, il rentrera, on l'attend, attendons, attendons. » Et il ne se passe rien. Ça pourrait être désespérant quand même. Eh bien non, ils n'arrivent pas à désespérer. Ils n'arrivent pas. Ils sont, comme je dis, la marmite s'est mise à bouillir avec Jean-Baptiste. Six dimanches de l'Avent, sur les six dimanches, quatre dimanches, quatre évangiles du dimanche sont entièrement consacrés à Jean-Baptiste. Sans compter un grand nombre d'antiennes et de réponses qui se rattachent à cette mission du précurseur et à sa personne. Ces évangiles mettent en relief les caractéristiques principales du rôle de Jean-Baptiste dans l'économie du salut. Avec lui, l'impatience augmente. Ça devient une sainte impatience. Une impatience, c'est-à-dire là, maintenant, maintenant il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Hein, faut absolument. Cette impatience, elle a animé les générations précédentes, mais arriver à Jean-Baptiste, j'allais dire, c'est presque intolérable. C'est presque intolérable. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, dit le Christ dans Saint Luc. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce jour. Encore le verbe désirer. Désirer voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, hier à la fin du texte d'Isaïe, il y a quelque chose d'assez bizarre qui m'a toujours interpellé. Dieu lui dit, oui, va voir ce peuple et rends-le dur d'oreille, rends-le aveugle et sourd. Et ça m'a toujours semblé curieux. Alphonse, il y a quelque chose à dire à ce sujet.
Tu vois ça comment?
Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile.
Qui peut le plus, peut le moins.
Oui. Et moi, j'ai une idée personnelle là-dessus. C'est que le Christ est venu ouvrir les yeux et les oreilles, n'est-ce pas? Les sourds entendent, les boiteux marchent, etc.
C'est le texte d'Isaïe. C'est le texte d'Isaïe.
Oui. Et oui, c'est le texte d'Isaïe. Oui. Mais s'ils n'avaient pas été sourds et muets, et sourds et boiteux et aveugles avant, on n'aurait pas pu les guérir, n'est-ce pas? Il fallait passer par ce passage. Mais c'est quand même un peu dur parce que d'entendre terminer la lecture sur ce texte, j'aurais préféré que ça se termine par me voici, envoie-moi. Là, on restait, et tout d'un coup, il y a encore ces deux versets, une mission difficile. Hein.
Mais le Pharaon, le Seigneur aussi,
envoie. Oui, voilà, c'est ce que je veux. Ça m'a toujours frappé aussi. Il endurcit, parce que le peuple doit passer par des épreuves. C'est terrible.
Alors, cette épreuve, elle va finir. Jean-Baptiste, il en a assez. Comme je disais tout à l'heure, la marmite s'est mise à bouillir, et il annonce maintenant, voilà, faites pénitence, convertissez-vous.
Il en a assez, ou il sait, puisque... Il va quand même tressaillir quand il va rencontrer...
Oui, bien sûr, il le sait. Mais il représente toute cette impatience qui s'est créée avant lui, n'est-ce pas? Il cristallise en lui toute cette impatience d'Israël, ce désir, ce que j'appelle l'impatience. Il ne s'agit plus d'attendre, mais il a compris quelque chose d'important. Le Messie, roi d'Israël, il s'agit d'attendre le sauveur des hommes, le sauveur de l'humanité. Le sens est nouveau. On a fait un pas. Monseigneur Jean, et là je vais citer, je vais faire une paraphrase sur ce que disait Saint Jean de Saint-Denis. Jean-Baptiste est l'homme qui, retrouvant par la métanoïa le chemin perdu du paradis, parvient à l'entrée de ce lieu interdit et frappe avec vigueur. Ouvrez-vous, portes éternelles, disait le psaume 24. Mais ce n'est pas pour y entrer qu'il demande que les portes s'ouvrent, mais pour en faire sortir le salut du monde. Donc la liturgie de l'Avent voudrait nous mettre à l'école de Jean-Baptiste. C'est-à-dire nous faire retrouver le chemin du paradis. Retournez. Convertissez-vous, ça veut dire retournez-vous. On peut penser, par exemple, si vous avez lu attentivement le livre de Ruth. Ruth, c'est celle qui est retournée des champs de Moab. À plusieurs reprises, on l'appelle ainsi dans le livre. Elle est revenue, elle est retournée. C'est le chemin du retour, qui est un chemin solitaire. C'est pourquoi Jean-Baptiste est dans le désert. Dans cette solitude, le désir de Dieu occupe toute la pensée, tout le vouloir humain. Ce que dit Grégoire le théologien, Grégoire de Nazianze, Dieu désire être désiré. Il veut que les hommes aient soif de lui. Et c'est cette soif, quand on a suffisamment soif, alors on reçoit l'eau. Monseigneur Jean disait, le désir de Jean-Baptiste provoque d'une certaine manière l'incarnation du Verbe divin. L'époux de nos âmes. Selon la propre parole du précurseur dans Jean 3, 29. C'est ce que nous répétons, nous aussi, après l'Apocalypse, quand nous disons « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. C'est la fin du livre de l'Apocalypse. Alors, nous avons donc eu l'annonce, l'espérance, avec Isaïe, le désir avec Jean-Baptiste, et maintenant, il nous faut recevoir. Donc, j'ai dit les trois verbes qui me semblent importants pour le temps d'avant. Espérer, désirer, recevoir. Et celle qui reçoit, c'est la Vierge Marie. Alors là, je sais même pas si c'est nécessaire de faire un commentaire, parce que là, tout le monde a compris. Oui. Je sais pas, hein. Comment ?
Si.
Tu dis toujours oui. Il faut toujours faire des commentaires. Vous avez remarqué, peut-être pas, mais enfin bon, je vais le faire à votre place si vous ne l'avez pas fait. Il y a très peu de paroles de la Vierge Marie dans les Saintes Écritures. On doit les compter sur les doigts d'une main.
Des paroles personnelles ?
Oui, des paroles. Elle ne parle pas. Et quand elle parle, c'est effectivement toujours des phrases qui ont un rapport avec l'ouverture, avec l'acceptation, avec le jour à l'Annonciation, ou tout à fait au début, l'Annonciation. Okay. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ensuite, le Magnificat, ça c'est le moment où elle parle le plus.
Toute l'embryogenèse est là, ou la phylogénèse?
Oui, la phylogénèse est là, oui, effectivement. Le Magnificat, c'est le moment où elle parle le plus. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle rend grâce, elle est heureuse. Et elle répète ce qu'il y a de meilleur dans l'Ancien Testament, dans les anciens psaumes, parce qu'elle ne fait que répéter des anciens psaumes.
Cantique d'Anne.
Le Cantique d'Anne, oui. Et même quelques-uns d'autres, voilà. Les noces de Cana, une phrase. Deux phrases. Mais enfin, vraiment. Bon. Et ensuite.
Puis de la croix.
Elle ne parle pas. C'est le silence après. C'est le silence. Alors, c'est quand même, j'allais dire, c'est un monument à contempler sans parler, sans faire de grands commentaires. Il y a rien à dire d'autre. C'est se mettre en état de recevoir, être entièrement tourné vers la réception, être comme tu disais, comme pas seulement toi d'ailleurs, en forme de coupe.
Accueil.
Oui, pur accueil.
Ce qui est intéressant aussi, je crois, et important, c'est que le Magnificat, cette jubilation extraordinaire,
oui.
Elle est quand même dans une situation tragique, avec l'histoire de Joseph.
Ah ben on est, oui.
Passible de mort.
Oui. C'est une situation tragique, c'est exactement comme Isaïe dont je parlais tout à l'heure. On est dans... Voilà. Il a fait en moi de grandes choses, celui qui est puissant. On est dans la inébranlable foi, confiance et obéissance à Dieu. Inébranlable. Il n'y a pas une goutte, un atome de désespérance, il n'y a pas un atome d'hésitation ni de doute.
En même temps, elle sait que c'est Dieu qui a envoyé, elle sait que c'est son ange qui est en face d'elle. Elle répond à Dieu.
Oui, mais tu sais, ouais. Moi j'y étais pas, si un ange m'apparaissait, je risquerais aussi d'avoir quelque... Je pense, tel que je me connais, je me dirais, est-ce que c'est vraiment un ange? Qu'est-ce qu'il me raconte?
Bon. Elle dit sans doute, comment ça se fera?
Oui, pose la question.
Elle pose la question, mais elle sait que c'est un ange. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours frappé, je ne sais pas forcément... Jésus, le Christ, passe dans le monde... Et peu le voit, le sent. Il y a un aveuglement. Il faut quand même qu'elle soit à un niveau de réception extraordinaire. Elle fait partie, comme les prophètes, elle entend et elle répond.
Elle dit son nom est saint. Donc elle nomme Adonai. Son nom est saint, il n'y a pas 36 saints. Le nom, c'est Adonai, c'est Jésus.
C'est le saint, saint.
Elle sait que c'est lui.
Et puis, elle reconnaît les paroles du prophète Sophonie.
Oui.
Quand l'ange dit « Réjouis-toi, Marie ».
Oui, c'est vrai aussi.
Fille de Sion.
Elle était habitée par la Torah. Marie, elle était habitée par la Torah.
Non, c'est bien c'est pour ça que je dis « Il faut que la marmite boue ».
Elle déborde.
C'est ça. S'il n'y a pas toutes ces générations avant, bon, et c'est pour ça que l'Église nous propose dans ce temps, en ces 44 jours, de revivre cette expérience-là, de ce que j'ai appelé la phylogénèse, de revivre ce développement qui a duré. Parce que nous sommes dans la même situation, par rapport au second avènement. Et il ne faut pas l'oublier, la liturgie chrétienne de Noël, c'est pas seulement la naissance historique du Christ, c'est, j'allais dire, nous faisons mémoire à l'avance du retour glorieux du Christ, du second. C'est pour ça que dans la liturgie de Robin, le premier, on avait ce dimanche de la fin des temps, n'est-ce pas? On devrait même pas dire la fin des temps, on devrait dire le commencement des temps. le renouveau. Mais dans le rite gallican, c'est très très net, n'est-ce pas? Constamment, on fait allusion aux deux choses. Et d'ailleurs, je crois l'avoir noté, dans les textes que nous avons actuellement, le troisième dimanche, la venue du Fils de l'homme, il ne s'agit pas de sa venue historique, mais de son retour, le quatrième dimanche, la première aux Thessaloniciens, on a la première aux Thessaloniciens, espérance de la parousie, du retour. Le sixième dimanche, deuxième aux Thessaloniciens, encore une fois, la parousie. Et puis préparer le chemin du Seigneur, c'est pas historique, c'est le chemin intérieur et c'est le chemin du futur retour. Les deux choses sont toujours liées. Hein.
J'aime ce que tu dis là, mon Seigneur, parce que on ne peut pas séparer, c'est impossible. Voilà. La première alliance qui conduit.
Oui.
On ne peut pas séparer, mais on ne peut pas enlever le retour. On ne s'arrête pas à Noël.
Non, puis c'est pas un anniversaire qu'on célèbre, n'est-ce pas? C'est pas une commémoration historique comme le 11 novembre. Le 11 novembre civil, pas le 11 novembre de Saint-Martin. Pardon. Voilà, alors je voudrais. On va vous laisser un petit peu quelques minutes de questions. J'aimerais bien qu'on me pose des questions, parce que j'ai sûrement chanté beaucoup de choses, parce que ça devait normalement durer beaucoup plus longtemps, mais ça fait court.
Il y a des choses sur Marie.
Oui, sur Marie, la liturgie est quand même très discrète. La liturgie de l'Avent est discrète. Monseigneur Jean a, excusez-moi de l'appeler toujours Monseigneur Jean, mais j'ai pas encore pris l'habitude de dire Saint Jean de Saint-Denis. Historiquement, voilà, je vais vous raconter, il faut comprendre pourquoi le deuxième dimanche de l'Avent, c'est la fête de l'entrée de la Vierge au Temple. Quand on a restauré le rite des Gaules, on a été chercher dans les livres, dans les sacramentaires gallicans, les textes. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait 6 dimanches. Or, jusque-là, on était dans le rite romain, et dans le rite romain, il n'y a que 4 dimanches. Donc, il en manquait 2. Or, il se trouve que les sacramentaires gallicans, ils commencent tous avec le temps de l'Avent, c'est-à-dire que c'est les premières pages des livres, les 2 premiers dimanches. Et dans un livre qui a été mis pendant 1000 ans dans un grenier ou dans une cave ou ailleurs, bien les livres s'abîment, il y a des inondations, il y a les gouttières qui coulent, on arrache des pages pour en faire des couvercles de confiture, de pots de confiture, Dieu sait quoi d'autre. Finalement, c'est presque toujours les 2 premiers dimanches de l'Avent qui manquent, ils ont disparu. On les a pas. On a, grâce à Dieu, de temps en temps gardé des références des lectures, mais on n'a pas les textes. Donc il fallait restituer ces 2 dimanches, les 2 premiers dimanches de l'Avent. Et l'évêque Jean a donc fait comme il a pu, et il s'est rendu compte que le deuxième dimanche de l'Avent, c'était toujours très proche du 21 novembre. Et le 21 novembre, c'est la fête byzantine dite de l'entrée de la Vierge au Temple. Et il a donc fixé cette fête au deuxième dimanche de l'Avent pour combler cette lacune que nous avions. Voilà. Donc, à part cette fête-là, dans les 6 dimanches de l'Avent, on ne parle très peu de la Vierge Marie. On n'en parle quasiment pas. Sauf 2 endroits dans le rite romain. Dans le rite romain, on célèbre la 6e semaine, la dernière semaine de l'Avent, le mercredi et le vendredi, on célèbre l'Annonciation, on célébrait, plus maintenant malheureusement, l'Annonciation et la Visitation. Oui, en une semaine, tout d'un coup, comme si l'histoire s'accélérait, on arrivait au bout de ce temps d'attente et on avait en deux jours l'Annonciation et la Visitation. C'était pas biologiquement, ça marche pas puisqu'on les a mis au 25 mars et au 2 juillet pour des raisons purement biologiques. Hein. Si le Christ est né le 25 décembre, c'est que l'Annonciation a eu lieu le 25 mars. Bon, c'est uniquement à cause des 9 mois de gestation. Mais les anciens n'avaient pas cette idée-là, ils avaient une idée liturgique. Et pour eux, c'était la sixième semaine, c'est-à-dire presque tout de suite avant Noël. Le temps s'était accéléré, en quelque sorte. On avait en réduction l'histoire de l'humanité, donc dans la dernière semaine, les derniers mois, les derniers jours, c'était les derniers mois avant la naissance. Bon. Donc on célébrait donc l'Annonciation le mercredi de la sixième semaine et la Visitation le vendredi. Je ne sais pas si on n'a pas gardé ces textes. Je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'on a dû... Non ? Dans les évangiles ? C'est dommage, on pourrait peut-être le refaire. Ça peut paraître étrange, mais ça, c'est une chose à réfléchir
non,
en tout cas.
On peut comprendre. Parce qu'on dépasse l'histoire biologique.
Oui.
En plus que l'Annonciation tombe souvent en semaine sainte.
Oui. Non, mais c'était pas une célébration, encore qu'en Gaule, peut-être, il célébrait vraiment la fête. Et en Gaule, il y avait encore une troisième fête. Le 23 décembre, c'était la fête de la préparation des couches de la Bienheureuse Vierge Marie. On célébrait vraiment le. Tu vois, on était là. Bon. Et c'est une fête qui est restée dans les diocèses de France jusqu'à la Révolution. Jusqu'à ce que. Oui, après, quand ils ont. Sous Louis XVI, on a accepté le Concile de Trente. Sous ça, en France, on a mis beaucoup de temps à accepter les canons du Concile de Trente. Concile de Trente, 1541 ou 42. Et en France, le Parlement de Paris a accepté de signer, d'enregistrer ces décrets qu'en 1776.
Oui. Moi, je trouverais ça formidable que ces fêtes soient dans la jambe. On est quand même dans une respiration spéciale d'attente. Alors que l'Annonciation, tu ne trouves pas, je pense, quand les maîtres, oh, quand même, allez mettre l'Annonciation au mois de juillet.
Non, mais en tout cas, même si on ne célèbre pas la fête, en tout cas, avoir ce jour-là les évangiles, les lectures de.
La Visitation, c'est à quel moment qu'il fait, c'est ça ? La Visitation.
Le vendredi de la sixième semaine.
Et l'Annonciation, oui, c'est
le mercredi.
Pendant les lundis.
L'Annonciation, ça passe, mais la Visitation, c'est après la naissance. Quand même.
Il fait tout. C'est avant. Après la naissance de Jean-Baptiste. Oui. Non, même pas.
Non, ils sont chaque.
C'est la dernière semaine de l'Avent, juste avant. Et généralement, on s'en rend pas compte parce que ce sont les noms divins. C'est la semaine des noms divins.
C'est pas en même temps. Les noms divins, c'est avant.
C'est plutôt. Pédagogiquement, ça pose un problème parce qu'il y aura une telle concentration.
Oui. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à la fois. Oui.
Comme de coller si loin, moi je trouve ça.
Oui. C'est assez. Mais en tout cas, non. Mais c'est quand même significatif et intéressant. C'est significatif de l'idée qui a présidé à la construction du temps de l'Avent.
Oui, c'est ça.
Pour moi, les évangiles.
Les évangiles.
Ah, oui.
on ne peut pas non plus ne pas tenir compte que toute la chrétienté
oui.
lève à l'Annonciation.
Le 25 mars, oui. Non, il y a quand même des choses, oui. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, je me dis que vraisemblablement, les anciens ne célébraient pas une fête ce jour-là. Mais on faisait mention, on faisait référence quand même à l'Annonciation et à la visitation ces jours-là.
Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Préparation des couches, c'est jamais comme ça.
Ah oui, oui, la préparation des couches de Vivi, ça c'était très étonnant. Il y a toute une. Oui. Dans certains missels des diocèses de France d'avant 1776, on doit encore les retrouver. Parce que ça, j'ai lu ça dans Don Guéranger, donc si lui l'a lu. Alors, il faudrait aussi parler des noms divins, qui sont aussi une invention gallicane, ces fameux, cette semaine des noms divins, mais ça pourra faire l'objet d'une autre conférence.
Tu peux dire quelques mots, hein.
Non, parce que sinon on ne va pas pouvoir dire l'office de l'autre. Question, à vous de parler maintenant.
À propos de Saint Jean-Baptiste, je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas envoyé tous ses disciples à Jésus.
Il a envoyé parce que je pense que ce que j'ai dit hier à propos de la liberté, ça doit jouer aussi dans ce. Quelques-uns ont suivi, d'autres non. Il les a pas obligés.
Lui-même ne suit pas Jésus.
Non.
Oh, ça, c'est pas si radical que ça.
Non, c'est pas aussi clair. Mais
il envoie ses disciples, quand il est en prison, il envoie ses disciples.
Oui. Es-tu celui qui doit venir?
Je crois que c'est plus pour ses disciples que pour lui.
Oui.
Pour que les disciples apprennent de Jésus lui-même.
Oui.
Le message.
En fait, lui, sa fonction est terminée.
Il faut que je... qu'il croisse et que je diminue. Oui. C'est très, très clair.
Il reste pour ceux qui ne suivent pas Jésus.
Grégoire le Grand, toujours lui, excusez-moi d'être encore, ça fait deux fois. C'est pas mon patron, hein. Grégoire le Grand dit il était si parfait qu'il aurait pu passer pour le Messie. Mais il a été très humble. Il dit non, je ne suis pas.
Mais s'il l'avait suivi, il y aurait eu peut-être un problème, comme tu le dis, comme il ressemblait. Il se sacrifie quelque part.
Non, sa mission est terminée. C'est conscience que.
Pourquoi il l'aurait pas suivi, là. Il l'a pleinement suivi.
Oui.
Il a pleinement suivi, oui, mais il sait qu'il va être martyrisé, je pense.
Il meurt martyr pour le Christ.
Hein. Oui, voilà.
C'est justement parce qu'il l'a suivi qu'il en est arrivé à ce stade-là, me semble-t-il. Il n'y a que mu par l'Esprit de Dieu, le Fils de Dieu, qu'on peut arriver à ce stade-là.
C'est d'humilité, oui.
C'est ça, c'est-à-dire suivre au sens physique. Oui. C'est au sens physique. Pourquoi, il y en a qui pourraient se poser la question, pourquoi physiquement il n'a pas suivi l'Esprit?
Ça aurait pu être le premier.
Il sait, à mon avis.
Moi, je pense que ce n'est pas sa mission.
Oui, c'est pas sa mission. Il connaît sa mission.
Oui.
Lui, c'est les prémices. C'est vraiment les prémices. Mais, moi, Seigneur, il me semble que si on veut y arriver à notre travail d'aujourd'hui, pour devenir accueil, c'est vraiment. Parce qu'à nous maintenant, c'est une question, hein, à nous maintenant d'accueillir en nous le Christ.
Et alors, voilà. C'est pour ça que. Cet accueil, recevoir, nécessite d'être passé par les deux autres stades.
Voilà.
Espérer, désirer. Voilà. Sans quoi on n'arrive pas à se mettre, à mon avis, dans cette attitude de réception, d'accueil. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a les trois piliers. Hein. Il y a trois stades. Il faut passer par les deux autres d'abord.
Oui, mais c'est ça l'époque de l'Avent.
Oui, c'est ça le temps de l'Avent.
révèle la vocation de tout être.
Oui.
Ce que dit Mgr Jean de Saint-Denis.
Oui.
Parce qu'il dit que la Mère de Dieu nous montre que c'est la vocation de tout être humain. Engendré.
Mais je ne peux pas engendrer si je n'ai pas un temps de ce... Ça, c'est quelque chose qui me tout le temps me poursuit. C'est après, c'est dans quel livre, Monseigneur, revient.
C'est après. Revient, Sulamite. C'est dans le Cantique des Cantiques.
Voilà. Reviens, retourne-toi. Quoi. Retourne-toi, reviens. Et que c'est vraiment ce temps-là. Quoi, de... Retourne-toi, reviens.
Je me souviens que l'évêque Callistos avait, dans son homélie sur la fin des temps, avait dit qu'il y avait trois avènements. Parce qu'il y a la parousie, Noël, et puis l'instant présent.
Oui, 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 oui. De même que dans l'ancien rite, il y avait trois liturgies à Noël et trois engendrements. Les trois messes basses, là, les fameuses trois messes basses d'Alphonse Daudet, c'était pas pour multiplier les liturgies, c'est parce qu'il voulait célébrer trois événements différents ou le même événement sous trois formes. L'engendrement éternel du Verbe dans le sein du Père, c'est la messe de minuit, qui commence par le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La messe de l'aurore, la lumière a jailli aujourd'hui parmi nous, c'est-à-dire l'événement historique, n'est-ce pas, la naissance du Sauveur. Et la troisième, un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est la messe du jour, c'est l'engendrement intérieur.
Oui, voilà. Et toujours ce aujourd'hui qui revient, maintenant.
Oui, ça c'est le maître mot des antiennes, des grandes antiennes Cimérone. La Vierge aujourd'hui met au monde. Et presque dans toutes les grandes antiennes, il y a le mot aujourd'hui.
Maintenant, mais où on est maintenant?
Tout est accompli.